Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. La rencontre littéraire débute à l'Espace Bar à l'instant. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter l'invité du jour, à savoir Laurent Binet, suite à son premier livre paru chez Grasset HHHH. Un livre remarquable et remarqué puisqu'il a obtenu le prix Goncourt du premier roman pour cet ouvrage. Laurent Binet, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre ambition avec ce livre était de nous raconter l'attentat en mai 1942 contre Heydrich à Prague, le pendant, l'avant, l'après. Mais est-ce que c'est simple de raconter une histoire vraie, l'histoire de deux parachutistes qui sont chargés de tuer un troisième homme ?
Ça dépend de comment on approche la question, mais en tout cas pour moi ça n'a pas été simple, puisque justement, enfin disons, j'estimais à titre personnel que une histoire vraie avec des protagonistes qui ont réellement existé n'avait pas exactement la même nature qu'une histoire fictive, et donc c'est un problème dont j'ai voulu rendre compte à l'intérieur même de mon récit.
Donc finalement vous vouliez pas raconter mais relater, loin des artifices romanesques cinématographiques?
Alors pas tout à fait, j'ai justement utiliser tous les artifices romanesques à ma disposition, sauf un, celui qui était pour moi le seuil que je voulais pas franchir, qui était j'ai utilisé tous les artifices romanesques qui étaient à ma disposition pour mettre en valeur cette histoire que je voulais raconter le mieux possible, parce que je voulais faire connaître, mais je voulais pas en rajouter. Je pense que l'histoire était suffisamment extraordinaire pour que ce soit pas la peine de la spectaculariser davantage. Et j'avais donc ce scrupule vis-à-vis des personnages.
Alors justement, Laurent Binet, qu'est-ce qui fait que vous choisissez de relater un fait ou pas, puisqu'il y a une grande documentation, vous en parlez dans le livre, que ce soit des livres précédents, des films, qu'est-ce qui fait que quand on écrit, on choisit de relater un fait ou pas, de choisir de faire un dialogue ou pas? Ça, c'est une question importante.
Oui, alors c'est très compliqué. Disons, il faut, même l'historien le plus, je suis pas historien, donc je veux pas parler pour les historiens, mais disons que on m'a souvent dit, face à cette espèce de scrupule névrotique que j'ai vis-à-vis de la véracité des faits, on m'a dit mais de toute façon tout est fiction, et même les historiens ils reconstruisent le réel, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut se décider. Quand j'ai une source, une deuxième source, bon, j'estime que les sources sont suffisamment fiables, je raconte l'épisode comme un fait réel. Mais par exemple, justement, j'ai reçu une autre lettre de quelqu'un qui m'écrivait qu'il était très étonné que j'ai pas mentionné le fait que Heydrich était mort d'un cas de botulisme suite aux conséquences de la bombe qui aurait été empoisonnée. Et il m'envoie un article qu'il a trouvé sur Internet sur la question. Et cet article, je le connaissais, en fait. Et c'est la seule fois où j'ai entendu parler de cette histoire sur une source, donc bon, sur Internet, qui c'était intéressant cet article, mais j'ai estimé qu'elle n'était pas suffisamment fiable et pas suffisamment recoupée par d'autres sources, et du coup je l'ai écartée. J'ai laissé la porte ouverte, si vous voulez. Les médecins se sont demandé si Heydrich avait été empoisonné ou pas, donc j'ai pas nié cette hypothèse, mais je l'ai pas retenue.
C'est ça, finalement, plutôt qu'apporter des réponses, vous voulez soulever des questions.
D'une manière générale, je voulais laisser de la place au lecteur, et je voulais pas lui imposer c'est paradoxal de dire ça, je voulais pas lui imposer ma lecture des faits, et c'est justement pour ça que je me mets en scène en tant que auteur, enfin en tant que homme ordinaire du XXe siècle, avec sa subjectivité, ses doutes, ses hésitations, ses croyances, ses partis pris, sa mauvaise foi, plutôt que justement, ce que je trouve plus
plus touchant,
je veux dire plutôt que une attitude qui est en fait plus un petit peu plus fourbe, je trouve, qui consiste à faire croire que l'auteur est absent, si vous voulez, et que l'histoire se raconte toute seule, et du coup fait un petit peu baisser la garde au lecteur. Là, le lecteur sait que voilà, son esprit critique doit rester en éveil parce que c'est une subjectivité qui lui raconte cette histoire et c'est pas la vérité incarnée qui s'écrit page après page, quoi.
C'est pour ça que votre histoire individuelle s'entremêle à l'histoire collective, parce que finalement vous n'aimez pas le vraisemblable, vous n'aimez pas vous mettre dans la tête des gens, vous préférez l'assumer dans le jeu, dans votre histoire, dans des allers-retours.
Oui, exactement. Enfin, c'est-à-dire quand j'ai toujours détesté, c'est un traumatisme scolaire ou pas, mais j'ai toujours détesté la distinction qu'on nous impose, et enfin qu'on nous rappelle tout le temps de jamais oublier de faire entre auteur et narrateur. Et donc dans mon livre, la question est plus simple puisque l'auteur et le narrateur se confondent complètement.
Alors ce livre, c'est pour rendre hommage à ces parachutistes, mais finalement, vos parachutistes, ils tardent à entrer en scène.
Oui, alors parce que en fait tout mon livre est construit en vue de la scène de l'attentat, et j'ai vu ça comme une sorte d'entonnoir dans lequel... Ah, ça recoupe. Dans lequel des chapitres sans loin apparent, des brefs chapitres sans loin apparent, sans lien apparent, des épisodes de toute époque et de toute origine et de tout espace géographique, apparemment hétérogène, se retrouvaient donc au moment de l'attentat. Mais j'étais confronté à un problème technique, si j'ose dire, c'est que j'avais une information beaucoup plus abondante sur Heydrich que sur les parachutistes. L'histoire des parachutistes, j'aurais adoré en savoir plus sur eux, mais bon, ça m'a pas été possible. J'avais beaucoup plus de documents sur Heydrich. Ce qui fait que toute la première partie est essentiellement consacrée à la carrière d'Heydrich. Bon, en même temps, il se trouve que, c'est un regret pour les parachutistes, mais pour Heydrich, sa carrière est tellement passionnante que ça me semblait intéressant de toute façon de m'attarder sur le personnage et puis sa trajectoire, quoi.
Personnage hautement impliqué dans le Troisième Reich et finalement qui se retrouve au centre des choses les plus terrifiantes de cette époque-là. Alors on l'a dit, ça se passe à Prague. À un moment donné, vous écrivez, ce sont les villes qui font le prestige des royaumes. Est-ce que le prestige de ce livre, c'est Prague aussi? C'est également un livre sur le Prague d'aujourd'hui, le Prague de l'époque. Vous l'avez dit, cette fameuse église, il existe même un musée où vous avez eu beaucoup de pièces pour écrire votre livre. Même si le lieu de l'attentat, par exemple, a complètement disparu aujourd'hui, parce que la mémoire des villes s'en va beaucoup plus vite que la mémoire des hommes.
Oui, ouais, le fameux virage de l'attentat, c'est une sorte de bretelle d'autoroute aujourd'hui. C'est évident que, enfin, disons, j'ai des liens affectifs très forts avec Prague et, pour moi, c'est vraiment la plus belle ville du monde. Et c'était un réel plaisir de raconter cette histoire dans ce cadre-là. Et c'était toujours un très grand plaisir de parler de Prague. Et c'est vrai que, enfin, si je m'étais écouté, il y aurait eu des pages entières juste où j'aurais égrené les noms des rues que je connaissais très bien. Enfin, je connais très bien la ville et bon, je l'aime, quoi.
Alors dans ce livre, il y a des pages terribles par rapport à ce qui arrive à la communauté juive. Le plus difficile, est-ce que justement c'est d'écrire la réalité ou d'empêcher votre imagination de vous emmener vers le romanesque?
C'est deux choses très différentes, si vous voulez. D'un point de vue littéraire, c'est extrêmement difficile de résister à la tentation romanesque. Ensuite, la question que vous soulevez, je crois, est un petit peu différente. C'est la question de l'horreur. Est-ce qu'on raconte l'horreur ou pas? Moi, c'était pas exactement. Bon, Mon projet n'était pas celui des bienveillantes. Bon, je dis pas que le projet des bienveillantes était de raconter l'horreur, mais bon, en tout cas, le résultat est quand même très horrible. Enfin, disons, il y a beaucoup de scènes d'horreur dans les bienveillantes. C'était pas du tout mon propos dans ce livre. Mon point de départ, c'était vraiment l'attentat contre Heydrich, et donc de parler de tout ce qui y conduit. Et donc, bon, en parlant d'Heydrich, j'ai abordé la question de la solution finale parce que il en était l'organisateur, mais j'ai littéralement pas voulu rentrer dans Auschwitz, puisque à la suite de, quand je relate la conférence de Wannsee en janvier 42, le chapitre qui suit est très court, et je me suis contenté juste de l'image d'un train qui arrive devant la porte d'Auschwitz, mais qui s'arrête là, et ensuite je reviens à la carrière d'Heydrich et au fil de mon histoire qui est pas centrée du tout sur la Shoah. En même temps, c'est vrai que j'ai été à Kiev et j'ai eu beaucoup d'informations sur les Einsatzgruppen, qui est une création d'Heydrich, donc ce que certains appellent, mais je sais que Lanzmann n'est pas d'accord, mais ce que certains appellent la Shoah par balle, qui a fait quand même, avant l'ouverture des chambres à gaz, les Juifs se sont fait éliminer à la mitrailleuse, donc de façon artisanale, si j'ose dire, et qui était dans des tranchées immenses et enterrées, et donc notamment le plus grand, je crois ce qui est encore aujourd'hui le plus grand charnier de l'histoire, c'est à Babi Yar, ce ravin à Kiev, où je crois il y a 100 000 juifs qui sont morts là, et 30 000 en 3 jours lors du début de l'opération. Bon, voilà, et donc ça, j'avais beaucoup de documents là-dessus. C'est moins connu que la Shoah, et donc je me suis attelé à faire un chapitre dessus. Et d'autant plus que voilà, c'était l'action était supervisée par un subordonné d'Heydrich. Je prononce mal son nom à chaque fois, c'est Blobel, je crois, qui était aussi un personnage, terrible mais intéressant dans son genre, et enfin bref, donc voilà, donc je suis pas du tout rentré dans Auschwitz, mais j'ai raconté Babi Yar.
Alors vous avez cité les bienveillantes, Jonathan Little, alors ça c'est une interpellation, parce qu'à un moment donné vous parlez, en parlant des bienveillantes, vous dites c'est Welbeck chez les nazis. Ça signifie quoi?
Ouais, disons, j'ai des sentiments ambivalents vis-à-vis des bienveillantes. J'ai dévoré ce livre, si vous voulez. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Oui, enfin, j'ai lu très vite, ça m'intéressait. J'ai aussi beaucoup de réserves autour du personnage que je trouve vraiment pas vraisemblable. Je vois pas très bien, enfin, disons, bon voilà, j'ai cette ce tic ou ce défaut ou cette maladie que quand je lis un roman historique, ce qui m'intéresse c'est l'histoire, et donc toutes les parties sur les déviances sexuelles ou les problèmes psychologiques du personnage principal m'intéressaient pas du tout, et à la fin ça fait quand même une grosse partie du livre. Et je me souviens que j'avais, bon, donc je le raconte brièvement dans mon livre, ça m'avait interpellé sur un forum, sur internet, j'avais lu que un lecteur s'enthousiasmait en disant mais c'est incroyable ce personnage, il est tellement réaliste, il reflète tellement son époque, le protagoniste des bienveillantes, c'est-à-dire les années 40. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que cette espèce de personnage nihiliste, distancié, très obsédé sexuel, pessimiste et décadent, ça m'a fait penser à Welbeck, et donc voilà, je me suis dit qu'en fait il reflétait beaucoup plus, et c'est un problème à mon avis pour un roman historique, ce personnage qui est censé être réaliste reflétait beaucoup plus notre époque que son époque. Et donc voilà, si je veux, enfin si je veux qu'on parle de mon époque, je lis pas un livre sur sur la Deuxième Guerre mondiale et inversement, vous voyez. Même si évidemment qu'il y a des correspondances, évidemment que quand, enfin je regarde les actualités, des fois je pense à la Deuxième Guerre mondiale, ou quand je lis des histoires de rafles pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense à des situations. Bon, évidemment, d'accord. Mais enfin. Si l'intention des bienveillantes c'était une intention réaliste, je trouve que bah il y a un problème avec ce personnage.
C'est pour ça que vous vous apesantez pas sur finalement les causes de Heydrich, ses surnoms, la chèvre et autres. Vous ne cherchez pas des raisons psychologiques à son profil. Ça ne vous intéresse pas.
Non, enfin disons, le lecteur peut le faire s'il veut. Donc c'est vrai que, enfin du point de vue de la trajectoire, j'avoue que je trouve ça assez fascinant quand même que l'organisateur de la solution finale ait été justement cet homme qui a été poursuivi toute sa vie par la rumeur qu'il était juif. Et donc bon, alors mais bon, je constate le fait, et en effet j'aime pas, enfin d'une manière générale, enfin disons j'aime pas les romans psychologiques, et j'aime pas en faire quand j'écris mon livre, mais disons le lecteur peut très bien en faire. Mais c'est vrai que disons dans la trajectoire d'Heydrich, enfin je m'attache plus aux causes sociologiques qu'aux causes psychologiques. Je pense que Heydrich est devenu ce qu'il est devenu parce que, enfin, entre autres, bien sûr, il n'y a jamais de cause unique, hein, mais parce que dans les années 30, il se fait chasser de la marine pour une histoire de mœurs. Il se retrouve au chômage en pleine crise, la crise terrible, enfin la crise de 29 des années 30. Et du coup, eh ben, il est au chômage et il s'engage dans la SS. Et à mon avis, c'est une, il y a forcément aussi des explications psychologiques, mais j'ai toujours tendance à penser que les explications sociologiques sont plus fortes et déterminantes, si vous voulez.
Et puis, ce qui vous intéresse, c'est rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont fait acte de résistance, parce qu'à travers ces parachutistes, il y avait toute une chaîne qui s'est organisée, une chaîne des plus intéressantes. Et vous dites, à un moment donné, chacun mériterait un livre.
Oui, et c'est presque une invitation, si vous voulez, à ce que d'autres leur rendent hommage à leur tour, ou fassent l'histoire de chacun de ces gens qui de ces braves gens qui étaient des ouvriers, des mères de famille, des adolescents, des étudiants, qui ont aidé les parachutistes et qui l'ont dans leur immense, des enfants aussi, enfin des enfants, des adolescents de 13 ans qui l'ont en général payé de leur vie, la jeune fille à qui on demande d'aller chercher la bicyclette, que le vélo que le parachutiste a abandonné devant chez Bata, le magasin de chaussures tchèque, et qui voilà, et qui le fait, qui va, et bon, et qui finira dans une chambre à gaz à Mauthausen, quoi.
C'est pas facile, c'est pas évident de terminer une telle histoire, parce que comme vous le dites dans le livre, eh bien ces gens-là ont existé, ce ne sont pas des personnages, donc on ne peut pas tourner la page et marquer le mot fin.
Non, et puis mais en même temps, le projet de leur rendre hommage est impossible, puisque de toute façon, j'en oublierai toujours, et puis ça a pas de sens. Enfin, je veux dire, les je peux citer 130 noms, les gens retiendront pas ces noms. Pour qu'on retienne un nom, justement, il faut une œuvre quelle qu'elle soit, quoi, un film, un livre, un documentaire, n'importe quoi. Bon, par exemple, voilà. Donc, au-delà de toute polémique, Yann Karski, bah, je pense que là, maintenant, on s'en souviendra. On se souviendra de son nom, quoi qu'il arrive. Grâce à Lanzmann et grâce à Enel, si vous voulez.
Alors c'est sans fin, on pourrait dire, pour terminer également dans la question de la fiction, du romanesque. Vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman. On peut dire que là, le côté romanesque l'emporte pour l'auteur.
C'est pas moi qui ai donné le prix, c'est pas moi qui ai voulu, qui ai écrit roman sur mon livre. J'ai voulu raconter cette histoire comme un roman. Simplement, le terme de roman me gêne un peu, parce que je veux qu'on sache que justement c'est une histoire vraie. Bon, voilà. Ensuite, vous savez, enfin, vous connaissez aussi bien que moi, sûrement mieux que moi, la situation éditoriale en France, en Europe, en France, comme en Belgique, j'imagine que c'est pareil. En gros, gros, aujourd'hui, les catégories se résument à deux. Il y a soit essai, soit roman. Donc bon, voilà. Donc moi, j'attache. Enfin, c'est pas moi qui ai souhaité qu'il écrit roman sur mon livre, mais j'y attache pas une grande importance. Et je crois que, enfin, les gens non plus, les lecteurs non plus. Enfin, ça.
Le plus important. Alors, pour terminer, le titre en nom de code, je pense que tout le monde le sait. H, c'est la traduction de la phrase allemande pour dire que le cerveau d'Himmler, c'est Heinrich, c'est une succession de H. Mais finalement, on pourrait dire aussi H comme histoire avec un petit H, un grand H. H comme les hommes, H comme notre humanité.
Oui, ça, c'est super quand. Quand les lecteurs ont des meilleures idées que l'auteur. Moi, j'y avais pas pensé, mais c'est très bien. Et merci.
Voilà. Bien, merci à vous, Laurent Binet, d'avoir été présent chez nous, chez Filigrane aujourd'hui, pour la présentation de votre livre HHHH, paru chez Grasset. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui désire poser une question dans l'assemblée. Sinon, on va passer à la séance de signature. Oui, non, si.
Bonjour.
Voilà,
donc vous avez parlé, et c'est très très intéressant, d'un entonnoir, d'une espèce de faisceau d'événements qui, pris séparément, n'ont pas forcément des rapports entre eux, mais qui vont finalement tous se focaliser sur l'attentat. Maintenant que vous le dites, effectivement, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, parce que ça reste de l'ordre du ressenti, et donc c'est personnel. Mais il y a aussi autre chose qui m'a vraiment passionné dans votre roman, c'est cette espèce de petit quelque chose que vous arrivez à distiller, puisque finalement, vous le dites vous-même, au départ, vous n'avez pas envie forcément de faire un roman, vous voulez raconter l'histoire, bon, telle que vous la racontez, mais ça reste l'histoire avec un grand H. Mais malgré le fait que finalement toute personne un peu documentée connaisse la fin et le dénouement, vous arrivez à raconter ça et à faire en sorte qu'on ait envie de le lire comme un roman policier, en ayant envie de continuer pour savoir ce qui va se passer. Même si on sait ce qui va se passer. On sait que Heydrich va mourir, on sait que Lidice, le village, va être rasé par les SS, on sait que les résistants tchèques vont être déportés, etc., ou assassinés. Alors, comment ça se fait que vous êtes arrivé à faire ça? Ça m'a vraiment surpris. C'est une période qui me passionne, sur laquelle je me documente énormément. C'est une histoire que je connaissais dans ses grandes lignes, et là vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait véritablement un suspense qui s'installe. Bon, d'abord bravo pour ça et merci, mais est-ce qu'il y a un secret, il y a un truc, il y a...
Bon, c'est pas vraiment une question, c'est surtout un compliment, mais je vous remercie. Mais en fait, c'est justement, enfin, disons, si c'est possible et si ça fonctionne, c'est justement parce que le roman et le romanesque se résument pas du tout simplement à l'invention, si vous voulez. Le romanesque, c'est des tas d'autres trucs, c'est des tas d'autres procédés qui font que quand vous regardez un film et que le héros est en danger à la moitié du film, vous inquiétez pour le sort du héros, alors que vous savez très bien qu'il reste 45 minutes et qu'il va pas mourir. Bon, bah c'est pareil, hein. Je crois que c'est une question de technique, ensuite plus ou moins maîtrisée, quoi.